Tout le monde en parle, reprend l'antenne le dimanche 27 septembre et on a vu comment la saison s'est terminée en pleine pandémie avec des émissions en direct, avec l'application des mesures. Guy Lepage est avec nous. Bonjour Guy.
Comment ça va, Paul?
Très bien, toi?
Oui, heureux de te retrouver à la radio. Tu es comme un phare dans mes matins.
Heureux de savoir que tu reprends l'antenne le 27 septembre avec Danny.
Oui.
On va parler d'abord de l'expérience du printemps. Là, vous avez, comme tout le monde, dû vous ajuster rapidement. Qu'est-ce que tu tires comme conclusion?
Ben, écoute, premièrement, que cette émission-là peut se faire vraiment sans public. Que ça change, honnêtement, c'est plate à dire, mais ça change rien. Même que je dirais que ça porte plus les invités à la confidence. Puis j'ai le feeling aussi que parce qu'on est en direct, qu'on leur dit, vous avez 14 minutes, que les gens se ramassent plus. Je suis resté assez surpris. Toi, tu es invité dès la première émission qu'on a fait en direct sans public. À quelle vitesse tout le monde s'est ajusté. Vraiment, j'étais étonné du résultat.
Est-ce que ça veut dire que dimanche, le 27, ça va être la même formule, donc en direct sans public?
Oui, on est en direct jusqu'aux fêtes. Parce que l'actualité bouge trop présentement. On voit comment ça change. C'est sûr que on essaye de reprendre le rythme normal de nos vies, mais il y a une deuxième vague qui nous guette. D'ailleurs, elle est vraiment pas loin. Elle nous surveille du garde-robe, je pense. Fait que je pense qu'on va rester avec cette formule-là pour un bout.
L'autre question pour tout le monde en parle, au niveau des invités, par exemple. Et là, tu sais, autour de cette pandémie, il y a différentes personnes qui s'expriment. Puis il y a des gens qui m'envoient des questions, puis je me fais le relais. As-tu oui. l'intention d'inviter Cossette Trudel, là, qui est espèce de leader des anti-masques, là, puis des théoriciens du complot?
On en a parlé, et à date, non. Pour la raison suivante, c'est que c'est très difficile d'argumenter avec des gens qui font des amalgames. Tu sais, quand tu poses une question à quelqu'un qui te répond sur un autre sujet, ou qui voit des complots entre les pharmaceutiques et le reste du monde capitaliste, c'est un petit peu dur d'argumenter. Moi, je sais pas honnêtement pas quoi faire avec ça, parce que je pense que ça aurait l'air d'un dîner de cons. On est sceptique. Je te dis pas qu'on le fera jamais, mais c'est clair qu'on commence pas la saison comme ça.
OK, Lucie Laurier, par exemple.
Ça dépend. Il faudrait vraiment que ce soit un sujet précis. Je te repose à toi aussi la question. Qu'est-ce que tu réponds à quelqu'un à qui tu parles, par exemple, que l'économie va mal, puis qui te dit qu'il y a un complot de tous les épidémiologistes de la Terre qui gardent le silence, puis qui savent que c'est une fausse maladie ou que c'est un truc pour faire de l'argent à Bill Gates? C'est bien dur d'argumenter avec ces gens qui sont convaincus qu'ils ont raison.
Tu es très actif sur les réseaux sociaux, je pense à Twitter, là, mais tu vois passer ces messages-là, tu vois. Est-ce que tu penses qu'on évalue correctement ce que ça représente dans la population? On surestime, on sous-estime ce courant anti-masque?
Écoute, ils disent qu'il y a quasiment 20 % des jeunes du Québec. Je trouve que ça commence à être un chiffre qui se peut. Mais il faut faire la différence aussi entre... J'expliquais ça l'autre jour. Tu sais, c'est correct d'être sceptique. C'est correct de se demander si, par exemple, dans le milieu pharmaceutique, il n'y a pas quelqu'un qui retient ou une information ou qui accélère un processus de vaccin pour faire de l'argent. Ça se peut. Puis c'est sain de se questionner là-dessus. Mais quand tu penses que tout le monde participe à un complot sauf toi, ça devient bien difficile d'argumenter. Puis c'est là que des discussions, là, ça servait dans des discussions de beaux-frères à la table, puis ça, je trouve pas que ça a sa place dans les médias. Mais il y a clairement 15-20 % de la personne là, qui commence à adhérer sérieusement à toutes ces tendances-là.
Parle-moi de la troisième saison de la série Bébéatrice. Vous êtes en production?
Oui, on est en production. On a presque fini. On est rendu à la dernière émission. Moi, j'ai passé l'été à écrire la quatrième saison. D'ailleurs, c'est ça que je faisais en attendant avidement ton appel. Parce que j'essaie d'en faire le plus possible avant de recommencer. Tout le monde en parle. Parce que tout le monde en parle, c'est tu rentres au monastère là, pendant 6 mois. Là. Il faut que tu lises tout, que tu regardes tout, que tu suis tout. Puis c'est dur d'être à la fois animateurs et auteurs.
Puis la troisième saison, ça se présente de quelle façon?
Ça se présente bien. Écoute, c'est de plus en plus agréable et facile de faire ça parce que toute l'équipe est rodée. Tu sais, au début, quand tu fais des dessins animés, c'est pas comme quand tu fais une dramatique. Quand tu fais une dramatique, tu arrives en montage puis tu dis « Hey, j'aimais mieux la finale de telle scène. Va donc voir la deuxième prise. Là. Il me semble que chose était meilleure. » Mais en dessin animé, ça n'existe pas. Tu fais ton histoire. D'un coup, tu regardes, tu dis « Oh, il manque une réaction. Oh, on aurait dû rajouter tel texte. » Puis là, tu appelles 22 animateurs pour leur dire « On va recommencer, on a oublié quelque chose. » C'est extrêmement précis, c'est chirurgical du dessin animé. Je ne comprenais pas pourquoi ça leur prenait 5 ans faire un Toy Story. Maintenant, je les trouve vraiment bon de réussir à en faire en me donnant 10 ans.
Tu as reçu hier le prix animateur de magazine culturel ou de talk show. Là. C'est le prix artiste. Évidemment, il n'y a pas de gala, mais ça a été présenté à Sucré Salé. Ouais. Est-ce que tu t'habitues aux hommages et aux trophées?
Non, on ne s'habitue jamais à ça. C'est toujours le fun d'être nommé, c'est toujours le fun de gagner parce que c'est du travail quotidien, c'est du travail acharné. Puis c'est un bouquet de fleurs, tu sais, un trophée. Sauf que tu l'aies gagné ou pas, que tu aies été nommé ou pas, le lundi matin après le gala, tu recommences à travailler. Nous autres, on est les artistes, on est des travailleurs qui avons trop de parties de bureau. Parce qu'on célèbre, tu sais, on célèbre deux ou trois fois. Tu sais, moi, je suis chanceux, là, je suis dans plusieurs galas là, pour différentes raisons. Mais je trouve qu'à chaque année, les infirmières, les professeurs, tout le monde qui travaille devrait avoir leur party récompense juste pour souligner le bon travail de les gens qui travaillent avec eux. C'est très valorisant, c'est très le fun, mais en même temps, c'est des choix qui sont subjectifs, que ce soit un jury professionnel ou le public. C'est pas parce que tu gagnes que tu es le meilleur, c'est pas parce que tu perds que tu es moins bon.
Est-ce que tu as pensé un jour à ralentir? Parce que tu le disais, là, la vie de tout le monde en parle, c'est une vie de monastère. Tu travailles sur d'autres projets, tu es ambassadeur de la Fondation de l'Hôpital Sainte-Justine. Est-ce que tu dis là un an ou deux, puis après ça, je lève le pied un peu?
Bien, je me dis ça, Paul, depuis à peu près 17 ans. Depuis qu'on m'a donné le prix pour l'hommage à ma carrière, là, à 43 ans, je me dis, je veux pas m'acharner. Puis ce que j'ai fait depuis plusieurs années, et particulièrement depuis que j'ai eu d'autres enfants, c'était de focusser sur le travail que je faisais. C'est-à-dire, je m'éparpille pas, je fais pas 25 affaires comme je faisais avant. Ça te permet d'être plus concentré, de mieux travailler, d'avoir du temps pour tes enfants. Tu sais, moi, je suis chanceux, à tout le monde en parle, c'est que moi, je peux travailler jusqu'à minuit, 1 heure du matin. Je peux aller coucher mes enfants, je peux jouer avec eux autres, je peux souper avec eux autres, puis je continue de travailler après. Puis j'ai une équipe qui a dû s'adapter à mes horaires, mais qu'on fait tout ça en harmonie, puis on est une équipe, puis c'est grâce à cette équipe-là qui a à peu près pas bougé depuis 16 ans que tout le monde en parle roule si bien.
Donc, t'es pas pressé de...
Non, je suis pas pressé, mais je te dis, je vais pas m'acharner. Moi, si j'arrête de faire tout le monde en parle, je me dirais pas, mon Dieu, qu'est-ce que je pourrais animer maintenant? De toute façon, je suis pas un animateur, fait que j'animerai pas. Mais je me sens pas obligé de faire quelque chose. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que ça va bien. C'est parce qu'il n'y a pas d'obligation.
Là, je m'adresse au citoyen Guillaume Lepage, qui habite le plateau Mont-Royal.
Oui.
Tu penses quoi des aménagements qui ont été faits récemment, puis de la philosophie de l'arrondissement?
Bien, écoute, moi, j'habite dans l'épicentre du plateau. Là. Je suis vraiment au milieu. Là. Prends la carte, là, puis regarde où est-ce qu'est le milieu, là, puis t'es quasiment sur ma maison. Alors, c'est sûr que tous les chantiers qui est autour, puis les rues piétonnières improvisées, puis je dirais les réparations, parce que c'est quand même un vieux quartier, ça devient complètement fou, Paul. Des fois, là, ça me prend comme 3 quarts d'heure rentrer chez nous. Avec la rue Saint-Denis, là, qui est nord-sud, puis là, qui est en réparation pour faire des pistes cyclables, tu peux pas descendre, tu peux pas traverser la ville. Si tu passes par Papineau, c'est les deux rues qui sont connectées sur un pont, c'est toujours congestionné. C'est fou. Moi, ma fille va une école, puis il y a trois écoles sur les trois coins de rue. Toute cette rue-là au complet, elle est détruite, elle est en réparation depuis, je sais pas, le mois de juillet. Alors, c'est impossible d'aller reconduire nos enfants, même à pied, là. S'il va à pied, il y a tellement de monde sur la rue, tu as l'impression d'être en ligne pour aller voir un show de AC/DC. Les bicyclettes, les voitures des gens de Paris qui comprennent pas et qui font des U-turns sur la rue Rachel. 50 piétons au pied carré. Les bicyclettes dans tous les sens, puis les cyclistes aussi qui décident de pas rouler sa piste cyclable sur le trottoir ou dans la rue. C'est débile. Hier, j'ai même vu en allant conduire ma fille un camion de recyclage reculé sur la rue où il y a les réparations pendant la rentrée scolaire pour aller chercher des vidanges. Je sais pas c'est qui le matin qui se lève et qui dit « Qu'est-ce que je pourrais faire ce matin pour faire chier le maximum de personnes sur ce coin de rue-là, mais je le félicite pour sa pugnacité. » C'est fou.
Tu as toujours vécu sur le plateau, je pense.
Ben pas mal. Quand il y a un pyromane qui a crissé le feu à ma maison dans Schlaga Maisonneuve, quand j'avais 24 ans, je suis parti provisoirement sur le plateau chez ma blonde à l'époque. Et c'est plus la même blonde, mais je suis jamais reparti. Fait que ça fait, 36 ans là, que j'habite le plateau.
Est-ce que tu recommanderais aux gens d'aller vivre sur le plateau?
Non. Pas au prix que ça coûte, puis pas avec les désagréments qu'il y a. Le rapport qualité-prix n'est plus sur le plateau. Moi, ma maison est à moi, elle est payée, elle est super belle. Quand je suis dedans, je suis super content. Mais jamais je conseillerais à mes enfants, à mes amis, « Venez vous installer sur notre rue ou dans notre coin, c'est fou. » Ça ne vaut pas ce prix-là, ça ne vaut pas ces désagréments-là.
Mais je me souviens que tu avais eu, appelons ça, un accrochage avec mon ami Luc Ferrandez quand il était maire du plateau.
Oui, j'ai fait rénover ma maison, j'ai fait changer tous les planchers puis quelques modifications il y a 2-3 ans parce que c'est une maison centenaire que j'ai. Fait que je m'en vais au Accès Montréal, donc ma mairie d'arrondissement pour aller chercher un permis. Puis là, Luc Ferrandez, puis il me regarde, tu sais, il est quand même gros, Ferrandez, là, il a un beau sens de l'humour, il dit. Oh, M. Lepage, qu'est-ce que vous faites ici? J'ai dit, je suis venu chercher un permis de travaux pour ma maison. Il dit, vous voulez pas quitter le plateau? J'ai dit, j'ai essayé, j'ai fait venir un camion de déménagement, j'ai vidé ma maison, j'ai essayé de sortir du plateau. Il y avait tellement de sens unique et de réparation que je suis revenu devant la maison puis j'ai glissé mes meubles là. il était crampé.
Il y a le sens du mot. Il y a le sens du mot pour ça. Oui. Guy, merci beaucoup. Bonne saison.
Hey, bienvenue, Paul.
Salut, à bientôt. Bye. Guy Lepage, 9h40, courte pause, puis je reviens tout de suite. Là, ça ne sera pas trop long avec notre sujet de tribune téléphonique.